Et oui, Vendredi Théâtre, vous avez reconnu le générique Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Alors, Vendredi Théâtre, une semaine chargée cette semaine. Donc, je suis avec la belle Gradia. Bonjour, Gradia.
Bonjour.
Je suis avec le jeune Robin. Bonjour, Robin.
Bonjour.
Et Tito qui vient d'arriver, qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour, Tito.
Bonjour.
Alors, un premier plateau, nous allons parler d'un spectacle qui s'appelle « S'embrase », c'est au Théâtre des 13 Vents. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Béatrice Picard, bonjour.
Bonjour.
Et Talia Almona, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour résumer un petit peu « S'embrase », de quoi s'agit-il ? Eh bien, dans une cour de récréation, nous avons donc Jonathan et Latifa qui s'embrassent et tout s'embrase.
Oui,
c'est un résumé.
Coup de foudre, voilà.
Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît.
Voilà, c'est un coup de foudre qui dont est témoin toute la cour de l'école et ça soulève un tas de questions, des remises en question. Et la facture de la pièce est très différente, ce n'est pas continu, c'est l'histoire d'un instant. Comment on ressent ce coup de foudre-là ? Il y en a qui... tombent des nus, d'autres qui sont curieux de la chose, d'autres qui les envient. Et l'auteur, finalement, a fait surgir de ce coup de foudre-là tous les questionnements des jeunes.
Alors, il y a donc tous les jeunes qui assistent à la scène, mais il y a aussi la voisine.
Ah ben oui.
Et vous êtes la voisine.
Oui, bien sûr, moi je suis plus jeune. Mais c'est extraordinaire, c'est que dans cette pièce, chaque sentiment, parce que ça commence toujours par un sang, s'embrasse. Mais quand on s'embrasse, on s'embrase. Mais il y a ceux qui s'empiffrent, il y a ceux qui s'enferment. Et moi je suis la sentinelle. Alors je suis une vieille dame qui éprouve beaucoup d'empathie pour ces jeunes et qui les observe de son observatoire parce qu'elle habite juste en face
juste
de,
en face
la,
de
cour
la cour
d'école et elle les aime beaucoup et à sa façon, elle contribue justement à protéger les jeunes parce qu'elle n'aime pas les géraniums. Elle met sur le rebord de sa fenêtre des condoms, enfin des préservatifs et leur dit « Servez-vous !» Alors vous voyez, c'est le genre, elle les aime bien ces jeunes-là.
Talia, vous faites partie donc des jeunes qui assistent à la scène. Quel est votre rôle plus précisément ?
Eh bien, mon rôle, c'est... Bon, dans la pièce, nous sommes quatre comédiens, quatre jeunes comédiens accompagnés de Béatrice, Francesca Barcenas, Christian Barry, Mathieu Girard et moi-même. Et nous jouons plusieurs rôles d'adolescents. Même parfois, nous jouons parents, mères, pères, petite sœur, grand frère, et voilà. Et moi, je joue les rôles féminins.
Ce qui semble juste.
Et je laisse les rôles masculins à mes camarades. Mm-hmm. Alors voilà, c'est parce que le texte, c'est un chœur. Hein? Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnages.
J'allais dire que c'est un chœur grec, presque.
C'est presque un chœur grec moderne, hein, écrit à la Luc Tartare, en fait, qui est l'auteur, qui est de chez vous, qui est d'ici.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous êtes d'où?
Moi?
On sent un petit accent.
Moi, je viens du Québec, de Montréal.
Parce que la pièce a été présentée à Montréal, donc, pour la première fois.
Oui, oui, exactement. À Montréal, à Laval, plus précisément, et qui est une banlieue de Montréal. Nous avons eu l'occasion de jouer à Montréal, au Québec, hein, un peu partout.
On a fait la tournée du Québec, oui.
Et en France, c'est notre quatrième fois.
C'est notre quatrième fois.
Tournée qui commence avec Montpellier. Hein, c'est notre première semaine de tournée.
C'est une belle première semaine, Montpellier.
Oh, oui, c'est un très bon début.
Qui s'achève, malheureusement, c'est la dernière ce soir pour nous ici. Là.
Bah, on va y revenir sur cette dernière. Alors, on a tous vu la pièce, parce que le principe de l'émission, c'est que nous, on voit la pièce et on voit avec plusieurs regards. Qui veut intervenir de... Gradia.
Oui, moi je veux bien. Donc en fait, il y a quand même plusieurs nationalités représentées dans cette pièce, parce que si j'ai cru comprendre, Francisca est vénézuélienne. Hein?
Oui, oui. Voilà. Italia est égyptienne.
Et voilà. Donc déjà félicitations pour cette performance linguistique. Et puis, pour revenir effectivement à la forme d'expression du texte, c'est une sorte de monologue que chacun entame. Mais c'est un monologue partagé avec les mouvements du corps, l'écriture au tableau. Enfin, ce n'est pas des tableaux. Si, ce sont des tableaux, une sorte de tableau.
Oh, oui.
Voilà. Il y a la danse, il y a des tas d'expressions aussi qui font en sorte que ce cœur est vraiment un cœur, mais ce n'est pas simplement un cœur comme à l'ancienne, justement, comme vous disiez, vous, mais c'est un cœur qui se sert aussi d'instruments modernes pour mettre en scène.
Oui, tout à fait. Peut-être que le mot juste serait chorale, la formation.
Ah, voilà, chorale. Ouais.
D'un groupe. Nous sommes un groupe, les personnes, les adolescents, le groupe d'adolescents qui assistent à ce
Et je voulais dire une toute petite deuxième chose. Par rapport donc aux différents sentiments dont vous parliez, il y en a un, je ne sais pas si on peut appeler ça un sentiment, mais il y a aussi la réputation. C'est-à-dire que la pièce dit « la Tifa vient d'arriver ». Et sur la réputation de comment il s'appelle le garçon
Jonathan,
elle tombe quoi. Donc c'est très drôle cette façon de penser le sexe par les adolescents. Est-ce que les adolescents se laissent influencer vraiment parce que les autres disent par la réputation
Souvent après le spectacle, nous avons l'occasion d'avoir des rencontres avec les jeunes et on leur demande ce qu'ils pensent du spectacle, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quelle partie du spectacle ils ont aimé. Est-ce que c'est un spectacle sur le sexe ou est-ce que c'est un spectacle sur l'amour? Alors, c'est très... En général, les filles répondent « c'est un spectacle sur l'amour ». Et les garçons disent « c'est sur le sexe ». Alors, vous voyez, c'est très différent. Et c'est aussi présenté comme une forme de vidéoclip.
C'est
une chorale,
cinéma,
mais très moderne. Alors, je pense que les jeunes s'identifient à ces personnages-là.
Puisqu'on parle de jeunes, Robin, tu as vu le spectacle aussi?
J'ai vu le spectacle.
Oui, et alors?
Et alors, moi, je me suis senti dépaysé. Quand j'ai vu ce spectacle, pour tout vous dire, je me suis senti étranger à ce qui se passait sur le plateau. Peut-être est-ce parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai passé cette période, mais je me suis pas retrouvé, j'ai pas retrouvé ma jeunesse dans ces personnages-là. Et je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas une jeunesse bien particulière qui était ciblée. Parce que les personnages, ils se répondent entre eux. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu sur la même ligne de compréhension de l'amour, la même ligne de compréhension du monde. Et dans cette un peu uniformité, est-ce que vous avez l'impression de retrouver aussi la jeunesse peut-être du Canada ou de France, ou
les sentiments humains sont universels à mon sens, mais j'ai une question pour vous. C'était quoi, vos sentiments à vos 15 ans?
Ils sont pas très loin.
Est-ce que vous étiez au courant de tout? Est-ce que vous aviez déjà éprouvé un coup de foudre? Est-ce que sexuellement, vous étiez actif?
C'est très bien de poser toutes ces questions à la radio, c'est parfait.
Je vous n'êtes pas à confesse, là.
Dis-nous tout, Robin.
À vrai dire, nous, on percevait la chose de façon différente. On avait les mêmes centres d'intérêt, on va dire, mais on en parlait de manière différente. Et enfin, s'entend, on n'avait pas le même langage en fait. On n'avait pas du tout le même langage que le langage qui est déployé sur scène. Et pas forcément les mêmes réactions ni les mêmes relations entre les hommes et les filles. C'était peut-être.
Pourtant, c'était écrit par un Français. C'était étonnant. Hein?
Et puis ça va très vite.
Par contre, c'est intéressant ce que tu soulèves, Robin, parce que la jeunesse de Sambraz, Luc Tartar, qui est l'auteur, a fait, comment je peux dire, il a fait un stage avec des jeunes de 15 ans aujourd'hui, OK, qui s'appelait vers un nouveau langage amoureux. Donc aujourd'hui, en 2012, comment qu'on parle d'amour? Et c'est après ce stage, comment qu'on parle d'amour, c'est-à-dire le langage utilisé, les codes, les expressions aussi précis que ça. Et lui, à la suite de ce stage-là, il a eu la pulsion de créer, d'écrire Sans Braise.
Et alors du coup, est-ce que vous avez retrouvé chez ces jeunes les mêmes codes qui sont décrits dans la pièce, ou est-ce qu'il y avait des gens qui sortaient un peu de la marge? Comment est-ce que ça s'est déroulé?
Tu veux dire dans le stage lui-même?
Dans le stage lui-même?
Moi, je n'étais pas là. D'accord. C'est vraiment Luc qui pourrait vous en parler. Mais par contre, admettons que je regarde les adolescents, j'ai des sœurs plus jeunes que moi, les sentiments restent les mêmes. L'amour, c'est l'amour, je veux dire. le coup de foudre, c'est le coup de foudre. Les premières fois, c'est les premières fois. Mm-hmm. Mais les codes, après ça, c'est les mots qu'on utilise.
C'est ça, tout à fait.
Et c'est ça qui change peut-être culturellement parlant ou avec le temps. Exemple, les fameux textos.
Ouais.
Je veux dire, aujourd'hui, le langage texto, ça n'existait pas dans notre temps, Robin et moi. Bon, on vient de faire un petit... Mais comprenez-vous ce que je veux dire? C'est plus à ce niveau-là, tu sais. Comme une autre génération, c'était autre chose. Fait que c'est...
Mmh. Vous avez raison. D'ailleurs, on voit à la télé, vous savez, des gens qui se disent par texto, j'ai rencontré mon amour, mon grand amour. Est-ce que tu peux me réserver un restaurant? Est-ce que tu peux m'organiser le mariage? Est-ce que vous avez complètement raison. Ça passe à la télé.
Ou ne serait-ce que le dessin. Ne serait-ce que le dessin. Oui. Maintenant, tu fais le cœur en boutonnant. Tu sais.
Ouais. Tito, tu ne t'es pas encore exprimé sur le spectacle.
Moi, je vais plutôt parler de la forme, puisqu'on a parlé du contenu. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre travail d'acteur, déjà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour moi le point. Vraiment, vous êtes excellents tous. Il y a du boulot.
Ah ouais.
Il y a du boulot. Et vous êtes très crédibles, ce qui n'est pas évident dans ce genre de choses, parce que vous jouez des adolescents, et c'est pas eux-mêmes. Si vous êtes tous très, très jeunes, mais c'est pas facile à un jeune adulte de parfois représenter quelqu'un d'adolescent de 14-15 ans, et vous le réussissez vraiment très, très bien, parce que c'est pas qu'une question de physique, parce que le physique, ça marche, mais vous, vraiment, on croit avoir vraiment des gens de 15 ans, et ça, c'est très réussi. Vous, madame, vous avez une présence extraordinaire, mais je crois que vous savez que quand vous êtes sur scène, on voit que vous, donc ça, de toute façon, on a dû déjà vous le dire plusieurs fois. Moi, j'ai bien aimé la mise en scène, je trouve elle très sobre et très correcte. C'est presque de la danse, c'est une chorégraphie que vous faites. Je crois que c'est comme ça, je suppose, qu'il y a une chorégraphie.
Vous travaillez de cette façon-là, voilà. D'ailleurs. En travaillant avec beaucoup d'improvisation au point de départ. Et ensuite, une fois que les rôles ont été répartis, on a ensuite, le metteur en scène a déterminé ce qui se ferait. Et maintenant, c'est réglé comme du papier à musique. Il n'y a plus d'improvisation. Et je pense que c'est ça qui fait la qualité du spectacle. On a voulu très souvent s'adresser directement au public, enfin les jeunes, et même la sentinelle s'adresse directement au public, toujours, de façon à ce que ça soit comme un véritable poème que l'on donne, mais dans lequel il y a de temps à autre des interactions avec les jeunes.
Ça, c'est du théâtre danse, en fait, quelque part, parce qu'il y a une chorégraphie, une vraie chorégraphie.
Oui.
Vous parlez au rythme, en rythme, et ça, c'est très réussi parce que ça se voit pas non plus. Il n'y a pas un côté artificiel dans l'affaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait.
Merci.
Et le travail de mise en scène, etc.
Le metteur en scène, en fait, peut-être pour compléter, c'est un metteur en scène qui a une façon de travailler non conventionnelle. Éric Jean, exactement. Et il travaille à partir d'improvisation. Il travaille à partir de l'acteur en soi, de l'acteur lui-même. Et c'est, comment je peux dire, du groupe aussi. C'est très important. Alors, Sans Braise, on a juste besoin de s'écouter. Oui, c'est chorégraphié, c'est comme une partition musicale. Écoute, je peux pas arriver... Avec l'éclairage, là, moi, j'ai un moment dans ce spectacle-là. Si je suis 10 cm court, c'est fini. Je suis plus dans l'éclairage. Et note, Talia, t'étais pas dans... C'était pas ça. Et on parle de 10 cm. Alors, c'est très précis, les lignes au plancher, bon. Et ça donne... comment je peux dire? C'est un défi.
Il faut garder une rigueur constante. Oui. Donc, on ne peut pas jouer sur un air d'aller, même si ça fait 4 ans qu'on fait la pièce.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur Luc Tartare. C'est aussi un comédien, c'est un auteur. Et comment ce texte s'est retrouvé au Québec?
De ce que j'en sais, c'est donc la compagnie de théâtre, le Théâtre Bluff, qui est une compagnie de création théâtrale pour adolescents au Québec. Le directeur artistique, Sébastien Harrison, est venu souvent en France, qui est auteur lui aussi. Et il a entendu parler de ce texte-là, il a connu Luc et tout, et il est bon ce texte-là. Et il l'a proposé à la compagnie. Et le choix a été affirmatif, hein, positif, sinon on ne serait pas là. Puis c'est très drôle parce qu'ils ont pensé à Éric Jean, le metteur en scène. C'est qu'en fait, le metteur en scène et l'auteur, Éric et Luc, ça a été un match. Une très bonne équipe. Oui, ils ont même retravaillé ensemble par la suite à Montréal.
Mmh. Et j'ajouterais en plus, c'est qu'à un moment donné, quand on a fait la lecture du texte, moi, j'ai posé la question à Éric, à me dire, mais comment tu vas mettre en scène? Je ne sais pas. On va travailler, puis on va finir par arriver à quelque chose. Il dit, on va travailler ensemble. On va découvrir tous ensemble. Et c'est comme ça que... Il est parti, surtout avec les jeunes, à faire de l'improvisation. Moi, j'étais complètement... Ça m'a passé à peu près, là, moi, je dirais 50 pieds, je devrais dire 50 mètres au-dessus de la tête. Mais petit à petit, comme il est un... il sait comment s'y prendre, les jeunes travaillaient, moi, je les regardais faire. Et petit à petit, il m'a intégrée dans le groupe et je me suis mis à faire de l'improvisation avec eux parce que moi, je n'ai pas cette habitude de travailler ainsi. Nous, généralement, quand on arrive avec une pièce de théâtre, on fait ce qu'on appelle de la table. On travaille d'abord les intentions et tout ça. Mais là, c'était clair, c'était une autre façon de travailler. Et moi, à chaque jour, on en apprend.
Eh oui, mais enfin, vous êtes complètement... Enfin, c'est un vent de spontanéité que vous apportez dans la pièce.
Et comment le public montpelliérain a réagi? Il y a eu une rencontre hier, je crois, avec le public.
Oui, oui. Très timide au point de départ avant de commencer à parler. Et je pense que c'est toi, Talia, qui a découvert des jeunes, qui a commencé à faire parler.
Oui, parce que, depuis le début de la semaine, il y a 8 jeunes adolescents qui font un stage avec Luc. Et nous, on y va l'après-midi. Et hier, ils étaient là, donc on avait le trac un peu. beaucoup, même. C'est eux qui ont pris la parole. Un des jeunes qui a pris la parole en premier et qui a dit, ben là, j'ai aimé. J'ai apprécié ma soirée. Et quand un jeune dit ça, tu fais « Ah, super! » Il dit « Oui, oui, là, d'habitude, quand je vais au théâtre, j'apprécie pas. Alors, j'apprécie la soirée. » Tu fais « Ah, OK, il faut dire merci. Merci beaucoup. » Et ensuite, la discussion est commencée grâce à eux beaucoup, parce qu'eux, ils ont lu le texte. Et souvent, ça prend du temps. Et je les comprends. Moi, je serais même pas capable de parler après un spectacle comme ça qui me met au visage mon intimité amoureuse, la sexualité. Alors, je les trouve souvent très courageux. Très courageux, oui.
On va rappeler que le spectacle s'appelle « S'embrase ». C'est au Théâtre des 13 Vents. Et ce soir, c'est la dernière, c'est à 19h. Voilà. Merci à vous de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. On va faire une petite pause musicale et j'ai choisi Juliette Gréco qui était présent il n'y a pas très longtemps à Montpellier avec Les enfants qui s'aiment.
Merci.
Qui s'aiment, s'embrassent debout contre les portes de la nuit, et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne, et c'est seulement la rombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants, leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus haut que le jour, bien dans l'éblouissante clarté de leur premier amour. Ils sont bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier.
Divergence FM.
Tu penses à quoi exactement ?
Ça m'a toujours semblé étrange. Quelqu'un vous aime passionnément, passionnément.
L'amour.
Et d'une minute à l'autre, plus rien. Plus rien. Plus rien. Ça fait tellement mal.
Dans les rues de la ville, il y a mon amour.
Dès que je pressens que quelqu'un va me quitter, je quitte tout de suite. Avant d'entendre l'explication en entier.
93.9.
Toujours la même chose pour moi. Séparation, dépression.
Tu veux en venir où là ?
Récupération par la boisson, rencontre d'un garçon, puis d'un autre polisson.
Qu'est-ce que t'es en train d'essayer de dire ?
Quelques parties de jambes en l'air pour oublier ce cher garçon, et puis après trop de vide, on cherche à nouveau l'amour de notre vie.
T'es pas un peu anormal ?
Je veux être seule, reste là, toi ta gueule.
On cherche un peu partout, et enfin après 2 ans de désespoir et de solitude, on trouve un autre amour jusqu'à la prochaine fois. Prochaine fois.
Oh, vous savez que j'aimerais mieux une paire de claques qu'un autre méchant.
Il y a un moment où on peut plus se remettre d'une autre séparation. Et que même si cette personne vous emmerde 60% du temps, eh ben on peut pas vivre sans elle. Que même s'il vous réveille tous les matins en vous éternuant en pleine figure, eh bien on préfère ses éternuements à tous les baisers des autres. Des autres. Des autres. Des autres.
C'est vrai ?
Divergence FM.
Oh non, c'est trop beau ça !
93.9.
Et oui, vous êtes bien sur Divergence FM, le 93.9, pour la deuxième partie de l'émission Vendredi Théâtre. Vendredi Théâtre, l'émission qui essaye de passer au crible l'actualité du théâtre à Montpellier. Un deuxième plateau avec un spectacle qui s'appelle No Sense Cabaret, épisode 1. La compagnie Bruit qui court, et j'ai le plaisir de recevoir Luc Miglietta, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Estelle Sabatier.
Bonjour.
Alors Luc, ça faisait quelque temps qu'on ne s'était pas vu, vous êtes quand même un habitué, vous êtes reçu à chaque spectacle. Alors ce non-sens cabaret, le non-sens c'est plutôt un genre anglo-saxon au départ, non ?
Oui, oui, oui. De toute façon, moi je suis très influencé par toute l'histoire du Monty Python Flying Circus.
Mm-hmm. Et je pensais à eux justement.
Et de toutes leurs références. Et donc voilà, je suis parti sur un nom anglais, j'avais envie de donner un nom anglais aussi à ce cabaret. Et nous, on a l'habitude de travailler sur le clownesque, le burlesque, en improvisation. Et là, on est parti plus sur quelque chose de, on va dire, justement, on n'est plus trop dans le clownesque, on est dans le non-sens et on cherche le non-sens. Et qu'est-ce que ça nous apporte à nous, comédiens ? C'est-à-dire, on n'a pas vraiment, si ce n'est de se de se concentrer sur notre personnage. On n'a pas d'histoire autour, on n'a rien à développer, si ce n'est d'être présent au moment où la scène, ce qui n'a pas forcément de sens, qui a beaucoup d'images, hein, c'est des images, des... Eh bien, voilà, on est concentré dans cette idée de non-sens et il faut avancer là-dedans.
C'est vrai qu'il y a du rythme dans le spectacle.
Voilà, en plus, hier soir, c'était la première, donc on était dans un rythme un peu faussé pour nous parce que justement, on découvrait un peu avec le public ce qui se passait sur le plateau. Et donc voilà, on a encore 3 représentations pour affiner le rythme.
Alors, c'est donc une série de scènes, de scénettes qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres.
Non, aucun rapport, si ce n'est les personnages qui se retrouvent dans des situations un peu complexes et avec des nouvelles émotions, des nouvelles énergies à présenter. Mais on reste tout de même, on essaie de rester dans le travail de ce personnage, de se lâcher prise.
Il y a un petit côté slapstick aussi.
Alors slapstick, c'est quoi?
Slapstick, en fait, d'après ce que j'en sais, c'est un genre qui avait été créé par Max Sennett au cinéma et Buster Keaton.
D'accord.
Qui joue beaucoup sur le corps et sur les gags avec le corps.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est un peu ça.
Bah ouais, on travaille sur le corps. Et voilà, parce que... Présence du corps.
Parce qu'en fait, le texte est à la limite secondaire. Il y a peu de texte et c'est tout au niveau du corps, de la gestuelle, de la chorégraphie, parce qu'il y a aussi de la chorégraphie dans le spectacle.
Mais c'est bien de l'entendre dire. C'est-à-dire que, en plus, les comédiens, ils ont besoin souvent de retour. Dans le texte, on a un retour immédiat. Et c'est vrai que dans le corps, on n'a pas forcément ce retour immédiat. Et donc, pour se donner confiance, il faut vraiment avoir confiance en son corps, avoir confiance en sa façon d'être et d'assumer la lumière devant le public. Et c'est un peu aussi ce travail-là.
Et c'est un travail aussi qui joue sur la fausse maladresse, parce qu'il y a de temps en temps des comédiens qui sont dans des situations et qui se retrouvent à jouer sur cette maladresse, se dire « qu'est-ce que je fous là, en fait ?»
C'est ça tout le long. Et c'est assumer ça, c'est justement assumer ça et assumer le regard du public en se disant « qu'est-ce qui se passe là ?» Ben, il ne se passe rien apparemment et pourtant il se passe plein de choses. Mais ça, le comédien, pour qu'il conscientise, c'est très très difficile.
Alors, on a l'impression qu'il y a... Quelle est la part d'improvisation? Est-ce qu'il y a de l'improvisation ou est-ce que tout est millimétré?
Non, là, justement, vraiment, moi, je travaille souvent sur des trames. J'écris très peu. Donc, je suis très peu dans l'écriture. Je mets en place les trames. J'explique, en gros, la situation avec quelques mouvements, déplacements. Et après, je lance les comédiens dans cette situation. Donc, forcément, ils sont en improvisation permanente. Et avec, ils ont quelques petites directions, mais la direction, c'est vraiment leur personnage, et d'assumer le fait d'être là, à ce moment précis, et d'essayer de se déconnecter totalement de qu'est-ce que je fais, où j'en suis, pour essayer d'avancer sans réfléchir.
Alors hier, la salle était complète.
Oui, bah alors ça nous a fait vraiment plaisir. Hein, pour une première, c'est toujours... Bon, peut-être c'est l'effet, on n'a que 4 représentations, et c'est un épisode 1, et on ne le reverra pas forcément... d'ici tôt.
Est-ce que si on revient au spectacle ce soir, ça sera le même spectacle ou ça sera un petit peu différent?
Et non, ce soir, on s'est mis une nouvelle difficulté, c'est-à-dire qu'on a 2 invités qui vont devoir s'intégrer à l'intérieur du cabaret, donc des invités, une comédienne et un musicien. Donc, dont je taire le nom parce que
c'est une surprise.
C'est une surprise, il faut y aller ce soir.
Voilà.
Et hier, il y avait un spectateur qui avait été pris à partie.
Oui, d'entrée, il a été pris à partie, et même 2 fois, c'était pas prévu qu'il soit pris 2 fois à partie, mais bon, il était tellement sympathique apparemment.
Il était très drôle.
Il était drôle, et puis il était, voilà, il a participé à sa manière au spectacle. Nous, en général, on aime beaucoup faire participer le public.
Alors c'est un spectacle qui est très drôle, moi j'étais hilar à peu près pendant toute la durée du spectacle, ça dure 1h15 si je ne me trompe pas, 1h15, 1h20.
On a fait 1h20.
1h20, ouais. J'étais pas loin. Mais on est vraiment hilar tout le temps, et en plus il y avait des enfants.
Tout âge. Ouais.
Tout âge, et des enfants qui réagissent au quart de tour.
Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est de réunir tout un public familial. Et puis bon, l'enfant, il trouve son compte, parce qu'il y a beaucoup d'images, comme vous dites, il y a du corporel, et puis les gens s'attachent à un personnage, ils le suivent à l'intérieur du cabaret, ils vont avoir des préférences, ils vont rentrer en empathie avec un autre, ils vont peut-être détester un autre, mais voilà. Et tout le monde trouve son compte, finalement.
Ils vont commenter aussi les enfants. Ils vont, à un moment, il y a un enfant qui fait tout un tas de mimiques. Et puis l'enfant dit, mais en fait, vous ne comprenez pas, il a soif.
Voilà. Ouais. Les comédiens n'avaient pas compris, mais l'enfant, lui, a compris. Et puis, alors, c'est venu très
avec
naturellement. Il a parlé avec sa logique haut et fort, alors que le public était là et qu'il y avait du monde.
Alors, il y a un moment dans le spectacle, moi, qui m'a fait hurler de rire, c'est le passage avec Charlotte Corday.
Oui.
Parce qu'il y a un petit passage historique
Il fallait...
qui est vraiment très, très, très drôle.
Voilà, en plus celui-ci, c'est assez étrange, j'ai amené cette idée, personne n'y croyait vraiment. Et l'idée, ouais, mais l'idée est toute simple, c'est qu'on avait fait un spectacle, parce qu'il faut, il faut rappeler que ce cabaret, en fait, c'est aussi, c'est un peu pour les 10 ans de la compagnie, on retravaille avec les personnages, on fait des scènes qu'on a déjà faites, et c'est surtout pour aboutir à un spectacle, qui s'appellera le Nocens Cabaret, qui sera joué en rue. Parce que notre réseau de diffusion est très axé sur la rue. Et c'est vrai que comme la Vista est un lieu d'expérience, souvent les spectacles qu'on a donnés en rue n'ont pas forcément cette image-là. Mmh. Et on prépare un spectacle de rue, justement, un cabaret pour la rue, pour notre réseau de diffusion qui va découvrir en fait ce qu'on fait à la Vista depuis très longtemps pour s'amuser, pour expérimenter, pour travailler nos personnages.
Et nous, à Vendredi Théâtre, on vous suit de très près.
Non, merci.
Moi, je vais me tourner vers Estelle parce que vous n'avez pas encore parlé.
Elle ne veut pas parler.
Elle ne veut pas parler. Vous n'avez pas l'habitude du micro.
Non.
Ah ben, oui, on va se mettre à l'aise. Comment ça se passe le travail dans la compagnie avec Luc ?
Bien. Non, je crois qu'on se pose beaucoup de questions jusqu'à la veille de la représentation, je dirais même jusqu'au jour, jusqu'à la seconde où on va entrer sur scène. Et puis après, on lui fait confiance, en fait, je crois. Il nous a pas mal appris à travailler sur le lâcher-prise, à essayer de trouver des personnages qui nous ressemblent, finalement. Et donc voilà, je crois que c'est surtout une confiance qu'on a en lui. Et donc du coup, même si on se pose beaucoup de questions tout au long du travail... Bah à force, on s'en pose plus et voilà, on entre sur scène et on essaie d'être là et d'être juste, en fait, juste là.
Au niveau théâtre, vous êtes influencé par le travail de Bernard Lecoq sur le théâtre du geste ou pas ?
Non, je ne suis pas influencé. Après, j'en ai beaucoup entendu parler. Moi, je me suis mis assez tardivement au théâtre, donc je n'ai pas eu vraiment de formation. Donc c'est vrai que ça aurait été avec plaisir d'avoir une formation Lecoq. Mais je n'ai pas eu cette formation-là.
Moi, quand je vous ai vu, j'ai pensé à ça tout de suite.
Mais je croise beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui et c'est vrai que je sens des affinités, en tout cas.
Alors, hier soir, on disait que c'était donc la première. Vous avez eu des réactions du public un petit peu après le spectacle ?
Oui, beaucoup.
Les gens
Je vous ai vu discuter après.
Il y a notre public qui est venu, qui nous connaît, donc qui a beaucoup aimé parce qu'il a été à la fois surpris par le côté non-sens.
Joyeux foutoir,
certains ont compris que c'est vrai qu'on avait abandonné un peu le côté burlesque, enfin clownesque, où les personnages sont un peu lâchés dans un vide avec beaucoup de silence. Là on a vraiment chargé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musique, c'est vraiment cabaret, ça n'arrête pas. Il y a très peu finalement de moments où il y a des grands silences avec justement le silence et pour amener l'improvisation, pour amener le clown vers l'instant présent. Et donc hier, c'était un peu différent. Donc le public qui nous connaît a été surpris. Bon, il a revu certains, comme me disait une certaine personne, certains tics de la compagnie. Mm-hmm. On a l'habitude de faire certaines choses, forcément. Et puis celui qui nous a découvert hier, qui s'est vraiment régalé, qui a eu de très beaux retours. Très bon retour.
Alors, le spectacle s'appelle Non-Sens Cabaret épisode 1. Ça veut dire qu'il va y avoir un épisode 2.
Voilà, parce qu'au mois de janvier, on revient avec 4 jours au Théâtre de la Vista avec un nouveau cabaret. Et l'idée après, donc, c'est d'en faire un seul. On va prendre les meilleurs morceaux et les meilleurs moments pour peut-être sortir ce fameux cabaret dans la rue.
Alors, pour l'instant, l'épisode 1 est à la Vista. Est-ce qu'il va tourner après dans la région ?
Non. L'idée, c'est de le jouer 4 fois.
Il
sera joué 4 fois. Voilà. Il va vivre pendant 4 représentations.
Voilà. On rappelle que le spectacle s'appelle Non-Sens Cabaret. Alors, les dates. Donc, vendredi ce soir, c'est à 19h. Samedi, c'est à 21h. Et dimanche, c'est à 18h30.
Voilà.
Eh bien, courez-y parce que moi, j'ai passé un très, très bon moment et on rit beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Merci.
On va faire une petite pause musicale avec quelque chose qui appelle le prochain plateau, à savoir Fréhel, la môme catch-catch.
Thank you. lutteurs, des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi, ça, c'est de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leur soi-disant combat, c'est du chiquet. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a un dans la salle aujourd'hui qui vient ici, il sera servi. C'est moi la môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça j'ai l'air vache. Et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier. La gueule en or et les deux pieds nickelés. Je fais les pieds au mur comme un échalant. Le grand écart et je crache à 15 pas. Je bois du gros qui tâche. C'est moi la môme cache-cache. Un jour dans une bagarre, avec deux affranchis dans le quartier de l'Arsenal, j'ai cogné sans crier gare. Le premier en est mort, l'autre est à l'hôpital. Les flics sont arrivés naturellement, bien après coup, c'est plus prudent. Ton nom me dit le commissaire au quart, puis il y a que toi, pour pas le savoir. C'est moi le môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça j'ai l'air vache. Et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier. La gueule en or et les deux pieds tatoués. Je fais les pieds au mur comme un échalot. Le grand écart et je crache à 15 fois. Je bois du gros qui tâche. C'est moi la môme cache-cache. De fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds tatoués. Je fais les pieds au mur comme un échalot. Le grand écart et je crache à 15 pas. Je bois du gros qui touche. C'est moi la bombe cache-cache.
Vous écoutez bien?
Divergence.
Alors, commençons.
Il ne suffit pas d'avoir une idée. Encore faut-il que cette idée nous hait, nous occupe, nous hante, nous devienne insupportable et encombrante pour que nous l'expulsions et qu'elle se mette à vivre d'une existence qui lui soit propre. Alors, qu'il n'est pas rare qu'elle se retourne contre nous.
Et oui, Divergence FM, le 93.9, l'émission Vendredi Théâtre. Tito est revenu au plateau avec Robin. Et nous allons parler d'un spectacle qui se joue au Carré Rondelet, qui s'appelle « San Antonio chez les Gones ». L'ai-je bien prononcé?
Très bien.
Alors, nous recevons donc Elisabeth Diamantilis, bonjour.
Bonjour.
Et Bruno Fontaine.
Bonjour.
Bonjour. Alors, moi, je n'ai pas encore vu le spectacle. Je vais le voir ce soir ou demain, je ne sais pas encore. Mais Tito et Robin, vous l'avez vu. Alors, San Antonio sur scène, c'est une première?
Alors, ce spectacle a été créé...
Parlez bien dans le micro.
Oui. Le spectacle a été créé il y a maintenant un an.
Tout à fait.
Donc, on l'a repris, on l'avait joué la dernière fois au mois de juillet à Cavalaire. Et donc voilà, là on le reprend, on l'a repris hier, on a fait notre reprise hier soir.
Tito, Robin, qui avait vu le spectacle. Tito, à
moi
dire tout honneur.
Ah, moi, j'adore, de toute façon, je suis un inconditionnel de M. Frédéric Dard, alias San Antonio, comme il voulait qu'on l'appelle. Hein. Donc, déjà, c'était une surprise parce que c'est l'histoire en intégrale. Donc, ce ne sont pas des extraits, même si vous avez fait des coupes, évidemment. Ça dure 1h30 et on ne voit pas le temps passer. Ça, c'est aussi une autre performance parce que c'est un monologue. En général, moi, je suis d'opinion que les monologues, c'est difficile de passer l'heure. Hein? Et là, vous réussissez très très bien à passer l'heure et qu'on ait l'impression que ça a duré 3/4 d'heure. Donc c'est parfait. Première remarque. Deuxième remarque, c'est la langue est très très belle. Il faut sacrément bien connaître la langue française pour la transformer à ce point-là. Donc, ceux qui ne connaissent pas San Antonio peuvent admirer cette capacité qu'avait l'auteur de parler d'utiliser la langue française. Et puis, autre remarque, c'est que vous ne cabotinez jamais, ce qui est quand même aussi une performance, puisque les rôles sont tellement typés que ça doit être très difficile justement de ne pas avoir la tendance à cabotiner. Et donc, c'est un jeu très, très juste. Évidemment, quand vous jouez Saint Antonio, il faut faire le mec, moi je drague et tout. C'est pas de ça que je parle, c'est-à-dire vous ne vous mettez pas vous en avant, c'est les personnages que vous mettez en avant, et ça c'est très très bien. Voilà, pour l'instant.
Vous faites tous les personnages, vous faites donc Saint Antonio, vous faites...
Il y en a une trentaine.
Voilà. Et vous faites aussi Berrurier.
Bien évidemment.
L'inénarrable Berrurier.
Il le fallait.
L'animal.
Alors, qui peut nous résumer un petit peu l'histoire San Antonio chez les Gones? Ça se passe à Lyon, si je me trompe?
Alors oui, en fait...
J'ai un vieux souvenir de lecture.
Tout à fait. San Antonio est en vacances. Il est avec sa maman, Félicie, et puis il reçoit la visite de Berrurier, qui lui est sur une enquête un peu ardue pour lui. Il est à Lyon, et effectivement, il y a deux enfants qui ont disparu dans le petit village de Grand-Gognan au Mont-d'Or. Et il est tout seul sur l'enquête, et il y a aussi un instituteur qui a été retrouvé mort, et pour l'aider, il demande l'aide de son ami Santonio. Et donc Santonio va partir avec lui sur les lieux, et là Beru a la bonne idée, pour passer inaperçu, de devenir instituteur.
Oula.
Donc c'est une grande aventure avec Berrurier. Voilà, les élèves sont à la bonne école, si on peut dire.
Mais qu'est-ce qu'il leur apprend exactement?
Ah bah déjà, on va jouer aux cartes, parce qu'il faut quand même jouer à la belote avant tout, avec du vin, parce qu'on joue pas à la belote sans pinard.
Sans rouge.
Donc voilà, donc ça annonce tout de suite un petit peu la couleur. Et puis évidemment après, il y a des rencontres avec une vieille dame cantatrice, ancienne cantatrice, qui adore l'opéra, qui a une voix assez limite. Et puis voilà, après il y a toute une histoire de drogue, de meurtre, voilà, c'est des rebondissements à chaque page.
Toujours une intrigue assez touffue dans les San Antonio.
Exactement, touffue dans les lieux, dans les personnages, donc ça va assez vite, c'est soutenu dans l'action et dans le verbe également.
Et dans le verbe, oui, parce que en fait, il y a toujours une frustration chez Frédéric Dard, on a l'impression, c'est qu'il il a toujours cette frustration de ne pas être reconnu comme un véritable auteur, alors que la langue est absolument flamboyante. Il y a des trouvailles à chaque ligne, ça fuse. Et puis quand on le relit, on s'aperçoit qu'on n'avait pas vu certaines choses.
Ah, tout à fait.
C'est un peu comme Bobby Lapointe, on réécoute à chaque fois quelque chose de nouveau.
C'est l'amour de la langue, je pense que c'est des gens qui ont l'amour de la langue. Et je pense qu'il a choisi un créneau qui lui allait bien. Je pense que Frédéric Dard je pense qu'il s'est éclaté à écrire tous ses romans. En tout cas, il avait l'air assez heureux de tout ça, quoi. Et c'est vraiment l'amour des mots, quoi. Ça fait vraiment, pour moi, ça fait vraiment partie du patrimoine de la littérature française.
Absolument. En plus, il y a une culture littéraire impressionnante chez Frédéric Dard, dont il joue tout le temps, et qu'il torture et qu'il en fait autre chose.
Il triture.
Voilà, c'est le mot que je cherchais.
Triture les mots. Oui, c'est un grand bonheur, c'est un grand bonheur à lire et à jouer également, quoi.
Robin, toi, tu ne connaissais pas San Antonio?
Et non, j'ai découvert San Antonio et Frédéric Dard au théâtre. Et ça a été un grand bouleversement. Vraiment, j'ai passé une heure et demie extraordinaire à rire comme j'avais jamais ri au théâtre.
Oui, j'ai beaucoup entendu.
Vous avez dû entendre Tito aussi.
Oui, le rire de Tito est
assez connu.
Très repérable.
Et vraiment, j'ai accroché, j'étais charmé par ces deux personnages, par le Berrurier et le San Antonio. Et cette langue, elle m'a vraiment subjugué. C'est-à-dire qu'à la fois, on rigole et le spectateur est sollicité tout le temps, en fait. Cette langue, elle nous met en éveil à la fois le rire et à la fois l'intellect aussi. Parce que derrière chaque phrase, moi, chaque fois, je me disais, parce qu'en plus, c'est de l'argot que nous, on n'a pas l'habitude de connaître. Et d'ailleurs, San Antonio, c'est... malheureusement une œuvre assez peu connue chez les jeunes générations, et du coup il fallait toujours un travail de repérage dans la langue et de translittération dans le langage d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Et du coup c'était un humour qui est totalement nouveau, et enfin à la fois très ancien et pour moi qui était nouveau et qui m'a complètement fasciné. Et tout le long, on est en accroche et puis l'intrigue est assez exceptionnelle, quoi. Et donc ce personnage, quand Berrurier va faire le rôle de l'instituteur, alors là, c'est incroyable. Et là, il y a le génération se retrouve, retrouve tous ici dans cet instituteur complètement
original,
Berruriesque.
Berruriesque.
Alors c'est marrant, il y a un spectateur qui m'a dit hier, moi je me suis régalé parce qu'il y a plein de phrases, on a envie de les retenir en se disant ça, il faut que je me souvienne. Et il m'a dit le problème c'est que t'en as une autre qui arrive juste derrière et qui est face celle d'avant et ainsi de suite.
Exactement,
et il disait, je sors du spectacle, j'en ai retenu peut-être deux ou trois et j'ai envie d'y retourner, quoi.
Il faut revoir le spectacle.
Exactement, et je pense qu'on a aussi envie de relire les
sans
le revoir. Ça fonctionne un peu de la même façon, c'est on a envie d'y retourner pour se faire plaisir aux oreilles et aux yeux, quoi.
On parlait d'argot tout à l'heure, mais c'est pas vraiment d'argot, c'est du San Antonio, c'est des créations à chaque fois.
Ouais.
C'est pas un argot qui existe forcément dans la rue.
C'est un mélange. Il y a des mots pour les chapeaux, par exemple. Il y a tout un tas de noms pour les chapeaux. Hein,
le bitos, notamment.
On se souvient.
Mais il le disait de lui-même, il disait quand la langue française lui refusait un mot, il l'inventait. Et effectivement, il s'est créé son propre langage, son propre univers, effectivement.
Alors je me tourne vers vous, Elisabeth. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène ce monstre de langage, quand même?
Un défi, le challenge.
Le challenge.
Non, on travaille ensemble avec Bruno depuis quelques années. Et c'était une envie aussi de faire quelque chose seul sur scène. Et quand il m'a présenté ce texte, c'est vrai que l'écriture de Frédéric Dard, de San Antonio, est complètement théâtrale. Ce que tu disais tout à l'heure, Robin, très justement, c'est qu'il s'adresse à ses lecteurs, il les apostrophe régulièrement en disant « Mais quoi, vous n'avez pas compris? Vous êtes vraiment nuls? Mais tournez la page !» Il les insulte, enfin bon. C'est briser le quatrième mur, finalement, et ce que nous, on appelle le quatrième mur au théâtre. Donc c'était une évidence que déjà ce langage-là était fait... pour être mis sur une scène,
être mis en bouche.
Voilà, pour être parlé.
C'est marrant parce que moi, il m'a fait penser un peu au langage rablaisien, presque. Comme un nouveau Rabelais, cette invention, très prolifique, et à la fois cette interpellation du lecteur, qui nous rappelle aussi cette monstruosité qui était Rabelais. Quoi.
C'est exactement ça. Et puis c'est tout à la première personne aussi, enfin, quand il raconte, c'est San Antonio qui raconte. Donc de toute façon, il y avait le jeu déjà là, tout prêt pour un comédien. Et puis après, voilà, c'était aussi un défi de une seule personne, un seul comédien là-dessus.
C'était vraiment un défi déjà pour adapter. L'adaptation est quand même assez ardue parce qu'il faut garder l'intrigue, mais en même temps, il faut garder la subtilité de la langue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout couper non plus.
Oui.
Et ça, c'est très dur parce qu'à chaque fois, on se dit « ça, faut le garder quand même, c'est très drôle. » Bah oui, mais ça aussi, c'est drôle. Bah, ouais, bon,
tout est drôle.
Tout est drôle. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut couper là, et puis il y a des fois, les actions nous entraînent dans des endroits où on se dit là, il y a trop d'actions, il faut revenir sur... Ça, c'est l'équilibre est compliqué à trouver. Et après, il faut tenir la cadence sur scène, parce que c'est une heure et demie non-stop, avec une trentaine de personnages, il faut tenir le coup jusqu'au bout.
Il faut tenir la précision.
Ouais,
la précision du personnage à chaque fois, puisqu'il n'y a pas de changement. Enfin voilà, Bruno a un costume le même du début à la fin. Il n'a comme décor et accessoires qu'une seule chaise. Donc c'est très restreint, on peut voyager très facilement. Mais effectivement, tout se passe dans la précision du regard, du geste, de la voix, de la tenue de corps, pour que le spectateur suive et que ce soit très lisible finalement, et que chacun puisse se créer son univers malgré tout et avoir les images qu'il veut.
Et là, l'importance d'Elisabeth dans le travail de suivi, c'est pour éviter de cabotiner justement. Parce qu'on a vite fait, le comédien a vite fait de se perdre un peu parce qu'il se dit tiens, ça marche, je vais en rajouter une petite louche ici, puis une petite louche là, puis finalement, c'est là où on se met à cabotiner. Et l'importance du regard extérieur, là, prend tout son sens. Là, c'est très important de recadrer systématiquement.
On parlait de Rabelais tout à l'heure, Robin parlait de Rabelais, mais comment est-ce qu'on aborde un personnage énorme comme Berrurier?
Alors c'est très étonnant parce que
c'est intimidant quand même comme masse.
Il ne faut pas se poser de questions. C'est comme quand on joue Hamlet, il ne faut pas se poser de questions. Non, bizarrement, il est venu assez rapidement ce personnage. Je l'avais un peu en tête. C'est marrant, quand on démarre sur certains personnages, on a quelque chose qui est dedans déjà. Et c'est un mécanisme. Berrurier, il est surtout... Enfin, moi, je le ressens comme...
une boule de nerfs à l'intérieur, quoi. Donc tout est dans une énergie très forte. C'est une énergie très très forte que je sens dans ce personnage. Et après, du coup, physiquement, j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup. Oui. C'est surtout dans l'énergie intérieure que ça bouillonne.
Ouais. Est-ce que ça serait possible d'avoir un petit extrait ou pas? Je ne sais pas si vous en ont parlé.
Ah non, ils
vous ont rien dit. C'est un petit peu une tradition.
Ah bah tiens, je ne savais pas.
Voilà,
ah bah,
de faire un extrait.
C'est ma faute, ma culpa.
Un petit
tu seras flagellé à la fin de l'émission.
Je pourrais faire, je ne sais pas, le tout début.
Oui. Faire le tout début.
Donc ça avait commencé. Donc tout avait commencé lors d'une visite de Sa Majesté Berrurier Ier. Hein. J'étais en vacances chez ma mère Félicie et un beau matin, Berrurier s'était annoncé le masque soucieux.
Ah, c'est baluche que tu sois le pas de service!
M'avait-il annoncé, bille en tête. Et pourquoi, baby?
Parce que je viens d'hériter d'une enquête que j'aimerais mieux que ça soit toi qui l'aies sur les endos!
Où en moi avait frémi la petite sonnerie de mon subconscient, celle qui retentit chaque fois que je pressens un truc, soi-soi.
T'as lu l'affaire de Grand Gognon Mondor?
Non, je ne lis jamais les baveux lorsque je suis en vacances.
C'est un bled, près de Lyon. Figure-toi que voilà une huitaine, un môme disparaît. Le fils d'un viticulteur, 13 ans, un gosse sérieux. Le pays entreprend des battues avec les gendarmes. La brigade mobile de Lyon entre dans la course, zéro. Impossible d'en mettre la main sur le mouflet.
Voyons, c'est moche.
Attends, c'est pas tout.
Voilà, je vous laisse deviner la suite.
Ça démarre sur des chapeaux de roue. Alors, l'œuvre de San Antonio, c'est une œuvre énorme. Il y a je ne sais pas combien de...
175.
Voilà,
175.
Ouais. Je veux dire plus de 100, donc j'étais pas loin de la vérité. Pourquoi avoir choisi plus précisément ce roman par rapport...
Un peu parce que nous sommes des gones, à la base aussi.
On est des gones.
Qu'est-ce que ça veut dire, gones?
C'est gamin.
D'accord. En lyonnais.
En lyonnais.
Ouais, c'est pas toi lyonnais, c'est le gamin.
Et donc, c'est un spectacle qui tourne. Et quelles sont les réactions du public? Là, vous avez eu deux personnes du public en direct. Alors, mais en général, les gens le prennent comment?
Très, très, très bien. Alors, ce qui est étonnant, et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que autant les gens qui connaissent que les gens qui ne connaissent pas sont sous le charme. Et ça, c'est plutôt bien parce que c'est un univers qui est quand même très fermé. Enfin, très fermé dans le sens très particulier. Et il y a des gens qui rentrent pas. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Moi, je j'aime pas San Antonio, j'en ai déjà lu, j'aime pas. » Qui sont venus voir quand même et qui m'ont dit « J'aime toujours pas San Antonio, mais je dois dire que le spectacle m'a plu. » Donc voilà, moi, pour le moment, je suis ravi des réactions des gens.
Tito, une petite réaction.
Comment est-ce qu'ils font pour ne pas aimer San Antonio? Non, c'est pas grave.
Enfin, je sais pas.
Écoute, il y a des gens comme ça.
Il y a des mystères. Mais c'est vrai qu'il y a deux aspects dans Frédéric Dard. Il y a Frédéric Dard qui écrit San Antonio, donc l'œuvre que l'on connaît, que ce soit l'histoire de France selon Berrurier, le Standinge, et j'en passais des centaines. Il y a aussi un volume qui est très bien qui s'appelle Les Cons, qui est une merveille.
L'histoire de France.
Ah, oui, l'histoire de France, je l'ai cité. Et l'œuvre de Frédéric Dard, qu'il signe Frédéric Dard, est tout à fait différente. Ah. C'est beaucoup plus sombre, c'est du polar très, très noir.
Oui, c'est très noir.
Très, très noir. Je pense notamment au roman qui s'appelle Caput, l'histoire d'un tueur psychopathe qui est vraiment là assez gratiné.
Oui, il a une partie sombre. Ouais.
Mais il se définissait lui-même comme un écrivain forain. Donc une fête foraine, c'est gai, c'est fantastique la journée avec les cris des enfants, avec la musique, les lumières, les barbes à papa. Et le soir, c'est terriblement glauque quand il n'y a plus personne et que tout est fermé. Et c'est exactement ça. C'est cette immense générosité qu'il avait en tant qu'homme. Comme souvent les gens très expansifs et généreux, au fond il y a une grande tristesse, une grande noirceur qui l'a aussi entre guillemets nourri plus ou moins contre sa volonté lors de l'après-guerre où il a vécu des choses, on en parlait hier soir, qui étaient assez, assez fortes et cruelles et qu'il n'a pas pu exprimer concrètement de son vivant, sauf les derniers jours de vie, je crois, dans des délires. Il avait perdu un petit peu la tête et il y avait certaines choses qui ressortaient, mais c'est quelque chose dont il n'a jamais voulu parler à ses enfants, à ses amis. Ce sont des périodes très très noires qui l'ont marqué à vie.
Il a écrit un roman d'ailleurs à ce sujet sur la période de l'épuration, tout comme Audiard d'ailleurs. Audiard aussi écrit un roman, paraît-il très très bien également. Et ces deux personnes ont été très marquées par cette période-là.
D'ailleurs, on voit, par, c'est dans son histoire de France qu'on voit qu'il haïssait le gaullisme, mais vraiment à un point. Donc, il vivait en Suisse, mais il vivait en Suisse, à mon avis, surtout parce qu'il détestait la France, pas la, le pays France, mais ce qui était la France, la période que la France traversait. Ouais, ouais. Et il a eu un petit espoir dans les années 80, mais il était assez déçu par la suite.
Ouais. Mais, il s'attire en Suisse.
Mais voilà, et ça se sent dans ses romans. Et, ouais. Il aime bien les gens, il aime bien les Français,
ouais.
Il aime bien l'esprit français. Mais il n'aimait pas le pays France, il n'aimait pas ça. Hein.
On va rappeler donc que c'est au Carré Rondelet. Alors les dates, moi je ne les ai pas sous les yeux.
Donc c'est jusqu'à dimanche prochain. On joue ce soir à 21h,
oui.
Et ensuite c'est 20h30,
demain,
et dimanche c'est
18h.
C'est bien ça.
Voilà, mais courez-y, parce que visiblement, Tito et Robin sont revenus vraiment avec un grand sourire aux lèvres du spectacle.
Thérapeutique par le rire.
Et il faut soutenir le Carré Rondelet, il faut soutenir les petits théâtres à Montpellier, où on peut voir des choses comme ça. Mmh. Ben, on va se quitter avec, puisque Berrurier était instituteur le temps d'une petite histoire, eh bien, j'ai choisi comme, pour se quitter, France Gall, Sacré Charlemagne. Très bonne semaine théâtrale à tous et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
Sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Participe passé, 4 et 4 fois 8. Leçon de français, de mathématiques.
Que de
travail.
Sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Oh, oh, sacré Charlemagne.
D'aller chaque jour en classe.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Participe passé, participe passé.
4 et 4 font 8,
4 et 4 font 8.
Leçon de français,
leçon de français.
De mathématiques,
de mathématiques.
Que de
travail,
sacré, 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 sacré Charlemagne.